ce stop, écoutez bien. À chaque fois que je fais attention stop, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous levez les mains, vous bougez les mains, et vous faites très très fort. Baissez. Attention, stop. Super, tout le monde. Oh, ouais, montez. On nous allait. 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 Attention, stop. Nous allons chanter. Vous êtes en forme, hein? Vraiment en forme. Justement. Aïe, ok? Et nous allons commencer tout doucement. Et on chante de plus en plus fort ce aïe. Et le dernier aïe, il faudrait qu'on entende à Lyon. Donc il faudra bien le lâcher là. Hein? C'est pour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts? Ok. Attention. Et Lyon. Allez, chantez ça, allez. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. Voyez monter, voyez monter. Les filles se suèrent. Les hommes, on y va là aussi, hein. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. Et les dernières. On le refait. C'est bon. Attention. Et yon, dé, yon, dé, trois, quatre. Ah, ça va sur cette fois-ci. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. Voyez monter, voyez monter. Les filles se sont, on y va là. Les hommes, on y va aussi, hein. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. Voyez monter, voyez monter. Ça c'est bon. Et voilà le moment que nous attendons tous, Kassam. Parce que nous sommes en train de passer un moment d'amour. Mais pour que ça soit bon, il faudrait que tout le monde fasse cela. Allez-y, ça fonctionne. Allez, prenez les mains comme ça, tout le monde. Allez, tenez-vous comme ça. Partageons ce moment d'amour, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. En haut, partout, partout. Devant aussi. Allez-y, allez-y, allez-y. On y va encore. Ah, ça c'est beau, ça. Que bon Dieu bénisse tout le monde ici. Attention. Attention, c'est parti, hein. Aïe, ah, ça c'est beau ça. On y va. Oh.
Aimé Césaire, né en 1913 et décédé en 2008, arrive en 1931 de la Martinique, comme boursier dans la classe d'hippocagne du lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est là qu'il rencontre Léopold Sédar Senghor, avec lequel il fonde, en 1934, le journal L'étudiant noir, l'organe dans lequel apparaît le concept de négritude. La négritude est conçue par ses promoteurs comme une arme contre le colonialisme. Il s'agit, pour eux, de promouvoir une culture d'origine africaine, mais dépassant le seul continent noir, une culture confrontée de la part des colonisateurs, soit à une politique de dévalorisation, soit à une politique d'assimilation, une culture en tout cas niée. La lutte pour la négritude est donc une lutte culturelle avant que d'être politique. Et le parcours d'Aimé Césaire le montre bien. En 1947, il crée la revue Présence africaine et publie, en 1948, une anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache que Sartre préfacera, donnant ainsi un nouvel élan au concept culturel de négritude. Mais, revenu en Martinique depuis 1939, Aimé Césaire est élu en 1945, avec le soutien des communistes, maire de Fort-de-France. Il le restera jusqu'en 2001. Il est élu député à la même époque et le restera jusqu'en 1993. Comme non inscrit de 1958 à 1978, il s'éloigne du Parti communiste en 1956, puis comme socialiste de 1978 à 1993. Or, partisan de la départementalisation de la Martinique, le jeune parlementaire s'oppose à ceux qui souhaitent son indépendance. Pour autant, César crée ensuite le Parti progressiste martiniquais qui revendique cette fois l'autonomie d'une île dont il préside pourtant le Conseil régional de 1983 à 1986. Volonté de trouver des solutions d'apaisement ? Pragmatisme ? En tout cas, les revendications politiques exprimées par Aimé Césaire ont pu sembler à certains en deçà de ce que pouvaient laisser entendre ses écrits. C'est que sa révolte reste essentiellement culturelle, mais avec une acception large de la notion de culture et l'idée d'un enracinement nécessaire de l'homme dans sa culture, comme le montre bien ce discours prononcé lors de la première conférence des peuples noirs de la diaspora à Miami. La négritude. Mes chers amis, mesdames, messieurs, vous avez décidé d'inclure dans les travaux de votre congrès ce que vous appelez un hommage à Aimé Césaire. Je ne saurais vous dire combien je me sens confus et, en même temps, combien je vous suis reconnaissant de cet honneur. Je remercie les différents orateurs qui sont intervenus pour toutes les appréciations bienveillantes et amicales qu'ils ont bien voulu porter sur mon travail d'écrivain et, en même temps, d'homme politique. Mais finalement, si j'accepte, et avec reconnaissance, cet hommage, c'est surtout parce que j'ai pensé que cet hommage me dépassait et qu'à travers moi, ceux qui étaient honorés, c'étaient des amis divers, des compagnons de lutte, un pays caribéen aussi, plus encore peut-être, toute une école de pensée militante, toute une école d'écrivains, de poètes, d'essayistes qui, pendant plus de 40 ans, ont pris pour thème de leurs réflexions, comme pour thème de leurs travaux, j'oserais même dire pour thème de leur obsession, une réflexion sur le sort de l'homme noir dans le monde moderne, ce qui prouve abondamment la présence parmi nous de brillants écrivains et par ailleurs afro-américain. Pour en venir au thème même de cette conférence, je ne blesserai personne en vous disant que j'avoue ne pas aimer tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l'inventer et à le lancer. Mais j'ai beau ne pas l'idolâtrer, en voyant tous réunis ici et venus de pays si divers, je me confirme qu'il correspond à une évidente réalité et, en tout cas, à un besoin qu'il faut croire profond. Quelle est-elle, cette réalité ? Une réalité ethnique, me dira-t-on. Bien sûr, puisqu'aussi bien le mot « ethnicity » a été prononcé à propos de ce congrès. Mais il ne faut pas que le mot nous égare. En fait, la négritude n'est pas essentiellement de l'ordre du biologique. De toute évidence, par-delà le biologique immédiat, elle fait référence à quelque chose de plus profond, très exactement à une somme d'expériences vécues qui ont fini par définir et caractériser une des formes de l'humaine destinée telle que l'histoire l'a faite. C'est une des formes historiques de la condition faite à l'homme. En effet, il suffit de s'interroger sur le commun dénominateur qui réunit ici à Miami les participants à ce congrès pour s'apercevoir que ce qu'ils ont en commun, c'est non pas forcément une couleur de peau, mais le fait qu'ils se rattachent d'une manière ou d'une autre à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés et opprimés. Je me souviens encore de mon ahurissement lorsque, pour la première fois au Québec, j'ai vu à une vitrine de librairie un livre dont le titre m'a paru, sur le coup, ahurissant. Le titre, c'était « Nous autres nègres blancs d'Amérique ». Bien entendu, j'ai souri d'exagération, mais je me suis dit « Eh bien, cet auteur, même s'il exagère, a du moins compris la négritude. » Oui, nous constituons bien une communauté, mais une communauté d'un type bien particulier, reconnaissable à ceci qu'elle est, qu'elle a été, en tout cas qu'elle s'est constituée en communauté. D'abord une communauté d'oppression subie, une communauté d'exclusion imposée, une communauté de discrimination profonde. Bien entendu, et c'est à son honneur, en communauté aussi de résistance continue, de lutte opiniâtre pour la liberté et d'indomptable espérance. À vrai dire, c'est tout cela qu'à nos yeux de jeunes étudiants, à l'époque Léopold Senghor, Léon Damas, moi-même plus tard, Alioune Diop et nos compagnons de présence africaine. C'est tout cela que recouvrait et que recouvre aux yeux des survivants du groupe le mot tantôt décrié, tantôt galvaudé, de toute manière un mot d'un emploi et d'un maniement difficile. Le mot négritude. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples et même dans l'inconscient collectif. Je ne crois pas que l'on arrive au monde le cerveau vide, comme on y arrive les mains vides. Je crois à la vertu plasmatrice des expériences séculaires accumulées et du vœu véhiculé par les cultures. Singulièrement, et soit dit en passant, je n'ai jamais pu me faire à l'idée que des milliers d'hommes africains que la traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n'avoir eu d'importance que celle que pouvait mesurer leur seule force animale, une force animale analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf, et qui n'ont pas fécondé d'un certain nombre de valeurs essentielles les civilisations naissantes dont ces sociétés nouvelles étaient en puissance les porteuses. C'est dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous, révolte contre quoi ? Je n'oublie pas que je suis ici dans un congrès culturel, que c'est ici à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l'on peut dire, d'une manière générale, qu'historiquement, la négritude a été une forme de révolte, d'abord, contre le système mondial de la culture, tel qu'il s'était constitué pendant les derniers siècles, et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés, de présupposés qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la négritude a été une révolte contre ce que j'appellerais le réductionnisme européen. Je veux parler de ce système de pensée, ou plutôt de l'instinctive tendance d'une civilisation éminente et prestigieuse à abuser de son prestige même pour faire le vide autour d'elle, en ramenant abusivement la notion d'universel, chère à Léopold Sédar Senghor, à ses propres dimensions, autrement dit, à penser l'universel à partir de ses seuls postulats et à travers ses catégories propres. On voit, et on n'a que trop vu les conséquences que cela entraîne, couper l'homme de lui-même, couper l'homme de ses racines, couper l'homme de l'univers, couper l'homme de l'humain et l'isoler en définitive dans un orgueil suicidaire, sinon dans une forme rationnelle et scientifique de la barbarie. Mais, me direz-vous, une révolte qui n'est que révolte ne constitue pas autre chose qu'une impasse historique. Si la négritude n'a pas été une impasse, c'est qu'elle menait autre part. Où nous menait-elle ? Elle nous menait à nous-mêmes. Et de fait, c'était, après une longue frustration, c'était la saisie par nous-mêmes de notre passé et, à travers la poésie, à travers l'imaginaire, à travers le roman, à travers les œuvres d'art, la fulguration intermittente de notre possible devenir. Tremblement des concepts, séisme culturel, toutes les métaphores de l'isolement sont ici possibles. Mais l'essentiel est qu'avec elles était commencée une entreprise de réhabilitation de nos valeurs par nous-mêmes, d'approfondissement de notre passé par nous-mêmes, du réenracinement de nous-mêmes dans une histoire, dans une géographie et dans une culture, le tout se traduisant non pas par un passéisme archaïsant, mais par une réactivation du passé en vue de son propre dépassement. Littérature, dira-t-on, spéculation intellectuelle, sans aucun doute. Mais ni la littérature, ni la spéculation intellectuelle ne sont innocentes ou inoffensives. Et de fait, quand je pense aux indépendances africaines des années 1960, quand je pense à cet élan de foi et d'espérance qui a soulevé, à l'époque, tout un continent, c'est vrai, je pense à la négritude. Car je pense que la négritude a joué son rôle, et un rôle peut-être capital, puisque cela a été un rôle de ferment ou de catalyseur. Que cette reconquête de l'Afrique elle-même n'ait pas été facile, que l'exercice de cette indépendance nouvelle a comporté bien des avatars et, parfois, des désillusions, il faudrait une ignorance coupable de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'émergence des nations en Europe même, en plein XIXe siècle, en Europe et ailleurs, pour ne pas comprendre que l'Afrique, elle aussi, devait inévitablement payer son tribut au moment de la grande mutation. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'Afrique a tourné la page du colonialisme et qu'en la tournant, elle a contribué à inaugurer une ère nouvelle pour l'humanité tout entière. Quant au phénomène américain, il n'est ni moins extraordinaire ni moins significatif, même si ici, c'est de colonialisme intérieur qu'il s'agit et de révolution silencieuse. La révolution silencieuse, c'est la meilleure forme de révolution. En effet, quand je vois les formidables progrès accomplis dans la dernière période par nos frères afro-américains, quand je vois le nombre de grandes villes administrées aux États-Unis par des maires qui sont des noirs, quand je vois partout dans les écoles, dans les universités, le nombre toujours croissant de jeunes noirs et d'hommes noirs, quand je vois cette formidable avancée, pour employer le mot américain, Advancement of Colored People, je ne peux pas ne pas penser à l'action menée dans ce pays par Martin Luther King Jr., votre héros national auquel, à juste titre, la nation américaine a consacré un jour de commémoration. Mais dans ce congrès culturel, j'ajoute que je pense aussi à d'autres, en particulier à cette pléiade déjà lointaine d'écrivains, d'essayistes, de romanciers, de poètes qui nous ont influencés, Sangor et moi, qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont constitué ce que l'on appelle la Renaissance noire, la Black Renaissance. Des hommes comme Langston Hughes, Claude McKee, County Cullen, Sterling Brown, auxquels sont venus s'ajouter des hommes comme Richard Wright, et j'en passe. Car qu'on le sache, ou plutôt qu'on se le rappelle, c'est ici aux États-Unis, parmi vous, qu'est née la négritude. La première négritude, cela a été la négritude américaine. Nous avons envers ces hommes une dette de reconnaissance qu'il faut rappeler et qu'il faut proclamer. Que conclure de tout cela sinon qu'à tout grand réajustement politique, qu'à tout rééquilibrage d'une société, qu'à tout renouvellement des mœurs, il y a toujours un préalable, qui est le préalable culturel. Mais me dira-t-on, que devient dans tout cela la fameuse notion d'ethnicity que vous avez mise en bonne place dans l'exposé des motifs de ce congrès sur laquelle vous nous appelez à méditer? Je dirais, pour ma part, que je la remplacerai volontiers par un autre mot qui, lui, est à peu près synonyme, mais dépouillé des connotations forcément désagréables parce qu'équivoque que le mot « ethnicity » entretient. Je dirais donc non pas « ethnicity », mais « identity », « identité », qui désigne bien ce qu'il désigne. Ce qui est fondamental, ce sur quoi tout le reste s'édifie et peut s'édifier, le noyau dur et irréductible, ce qui donne à un homme, à une culture, à une civilisation sa tournure propre, son style et son irréductible singularité. Eh bien, nous y voilà ramenés. En effet, et puisque j'ai parlé d'un préalable culturel, indispensable à tout réveil politique et social, je dirais que ce préalable culturel lui-même, cette explosion culturelle génératrice du reste, a elle-même un commencement. Elle a son propre préalable, qui n'est pas autre chose que l'explosion d'une identité longuement contrariée, parfois niée et finalement libérée, et qui, se libérant, s'affirme en vue d'une reconnaissance. C'est tout cela qu'a été la négritude. Recherche de notre identité, affirmation de notre droit à la différence, sommation faite à tous d'une reconnaissance de ce droit et du respect de notre personnalité communautaire. Je sais bien que cette notion d'identité est aujourd'hui contestée ou combattue par certains qui feignent de voir dans notre hantise identitaire une sorte de complaisance à soi-même annihilante et paralysante. Pour ma part, je n'en crois rien. Je pense à une identité non pas archaïsante, dévoreuse de soi-même, mais dévorante du monde, c'est-à-dire faisant main basse sur tout le présent pour mieux réévaluer le passé et, plus encore, pour préparer le futur. Car enfin, comment mesurer le chemin parcouru si on ne sait ni d'où l'on vient, ni où l'on veut aller ? Qu'on y pense. Nous avons bataillé durement, Sangor et moi, contre la déculturation et contre l'acculturation. Eh bien, je dis que tourner le dos à l'identité, c'est nous y ramener, et c'est se livrer sans défense à un mot qui a encore sa valeur. C'est se livrer à l'aliénation. On peut renoncer au patrimoine. On peut renoncer à l'héritage, certes. Mais a-t-on le droit de renoncer à la lutte ? Je vois que certains s'interrogent de temps en temps sur la négritude. Mais en vérité, ce n'est pas la négritude qui fait question aujourd'hui. Ce qui fait question, c'est le racisme. C'est la recrudescence du racisme dans le monde entier. Ce sont les foyers de racisme qui, ça et là, se rallument. Ce sont, en particulier, les grandes flambées d'Afrique du Sud et de l'apartheid. C'est cela qui fait question. C'est cela qui doit nous préoccuper. Alors, est-ce bien le moment, pour nous, de baisser la garde et de nous désarmer nous-mêmes ? En fait, le moment actuel est pour nous fort sévère, car à chacun d'entre nous, une question est posée. Et poser personnellement, ou bien se débarrasser du passé comme d'un fardeau encombrant et déplaisant, qui ne fait qu'entraver notre évolution, ou bien l'assumer virilement, en faire un point d'appui pour continuer notre marche en avant. Il faut opter. Il faut choisir. C'est ce choix qui fait que ce congrès a un sens. C'est ce choix qui fait que ce congrès prend du sens. Pour nous, le choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie, même comme méthode. Il ne s'agit ni d'intégrisme, ni de fondamentalisme, encore moins de puéril nombrilisme. Nous sommes tout simplement du parti de la dignité, du parti de la fidélité. Je dirais donc, provignement, oui. Dessouchement, non. Je vois bien que certains, hantés par le noble idéal de l'universel, répugnent à ce qui peut apparaître, sinon comme une prison ou un ghetto, du moins comme une limitation. Pour ma part, je n'ai pas cette conception carcérale de l'identité. L'universel, oui. Mais il y a belle lurette que Hegel nous en a montré le chemin. L'universel, bien sûr, mais non pas par négation, mais comme approfondissement de notre propre singularité. Maintenir le cap sur l'identité, je vous en donne l'assurance, ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans une sorte de solipsisme communautaire ou dans le ressentiment, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Cette contribution sur la négritude a été prononcée à l'occasion de la première conférence des peuples noirs de la diaspora à Miami.
Merci Jean-Michel Dufès pour cet exposé très intéressant sur Aimé Césaire, La négritude, une révolution culturelle. C'est un exposé qui date de 1987. Vous écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et nous espérons être une bouffée d'air pour vous tous et vous toutes. Alors, bon appétit et bonne journée à toutes et tous sur Radio Libertaire.
Hola, mio bella Nisa, regina degli flow, Nisa la bella.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est, bien sûr, modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Soleil. Bonjour à tous, bienvenue dans un rayon de soleil. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. 89.4 sur Paris et la région parisienne, en DAB+ aussi. Et puis partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission en partie à Cassave et en partie à Aimé Césaire, avec une conférence qu'a donnée Jean-Michel Dufès, qui est un historien belge qui est très intéressant. et qui va nous apprendre plein de choses tout à l'heure sur Aimé Césaire. Ce sera en deuxième partie d'émission dans à peu près une heure et demie. Voilà, mais on commence tout de suite par un concert enregistré de Kassav, enregistré à Vienne. On vous souhaite une bonne écoute sur Radio Libertaire.
la plaine au quai, ouais, les gens comprennent ça.
Faut avoir l'énergie là.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et nous nous retrouvons en direct 1h30 pour parler de livres, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Francis et aujourd'hui notre invité qui arrive juste, Franck Sénateur pour son livre « Les grandes évasions de l'histoire » publié aux éditions du Nouveau Monde. Frédéric m'a signalé qu'il n'y avait pas d'annonce, donc nous allons tout de suite échanger sur le d'abord notre adresse. N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, mais aussi sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit pour cela de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Nous saluons Franck, qui arrive juste, et nous commençons par... Pour alimenter le débat, c'est toujours la première partie de notre émission. La couverture du Monde Libertaire de cet été avait pour titre « Pas de retour à la normale, grève générale, 92 pages ». Un numéro d'été qui était particulièrement riche. Et la question, c'est de se dire « Bah oui, la grève générale, mais la grève générale, pourquoi faire ? Est-ce que la grève générale, c'est le prélude à la Révolution ? Et est-ce que la Révolution a encore un sens ?» Et pourquoi faire dans un monde aussi complexe que le nôtre ? Premier ouvrage, donc, un ouvrage de David Graeber, qui nous offre à titre posthume une réflexion dans son livre « Révolution à l'envers ». Je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Les éditions Payot proposent fréquemment des ouvrages portant sur l'anarchisme. Alors, vous retrouvez des classiques comme Proudhon, Bakounine, Kropotkine, mais aussi d'autres auteurs plus récents comme Catherine Malabou, Il n'y a pas eu de révolution, réflexion sur la propriété privée. On a fait un commentaire dans la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire du 27 avril 2024. Et puis, justement, il publie des ouvrages de David Graeber. Tous deux participent au renouvellement de la pensée libertaire en introduisant notamment la notion de féminisme. David Graeber est malheureusement décédé en 2020. Il est issu de parents d'origine modeste. Son père était ouvrier imprimeur. Ce père a combattu dans les brigades internationales. Sa mère, artiste dans une comédie musicale produite par un syndicat d'ouvrières du textile. Et après des études d'anthropologie, David Graeber obtient sa titularisation comme professeur à la London School of Economic and Political Science. Il publie à l'issue de sa thèse un livre pour une anthropologie anarchiste, que vous pouvez trouver chez Lux, par exemple, et il écrira sur de nombreux sujets, de la valeur à la dette, en passant par le pouvoir royal, la démocratie et même la piraterie. En 2000, il rejoint la section new-yorkaise du Direct Action New York Network, participe au mouvement d'occupation de Wall Street et ainsi il mène de front une carrière universitaire et des prises de position activistes. Alors, l'ouvrage dont je voudrais vous parler aujourd'hui reprend des textes de David Graeber dans lesquels il s'implique et souligne l'engagement qui fut le sien. Révolution à l'envers. Comme le souligne son préfacier, Vassili Pignoudès, le recueil qui suit contient des écrits parmi les plus politiques de Graeber. Et j'ajouterai, pour ma part, parmi les plus lisibles et les plus accessibles. Ce sont des textes qui ont été publiés dans des journaux, des revues politiques, et qui, pour la plupart, portent sur des questions de stratégie révolutionnaire. Les deux premiers essais abordent, vous verrez les titres, c'est intéressant, c'est « Le choc de la victoire »,« L'espoir en commun »,« Contre le capitalisme kamikaze ». Ils traitent directement de ces questions, les uns s'attachant à tirer les leçons du mouvement altermondialiste et l'autre
a dégagé, le dernier a dégagé les points de convergence entre militants écologistes et travailleurs du pétrole. Apparemment, une forme d'oxymore, si vous voulez. Bon. Et dans une armée d'altruistes, c'est un commentaire sur les luttes politiques autour des valeurs aux États-Unis aujourd'hui, et sur l'attrait que suscite malheureusement le populisme de droite au sein de